Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous, bienvenue au 36e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. Je m'appelle Julie, vous avez déjà eu l'occasion de m'entendre à ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est le premier épisode de la saison
5.
Ouais. Merci à cette belle participation en studio. Donc notre 36e épisode, bienvenue à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Année 2024-2025, notre saison 5 de podcast, donc comme j'ai dit, 5e année de podcast, ça veut dire ça Alexis, pour toi et moi?
Oui, exactement, on a commencé au retour de la COVID, durant la COVID. On avait le projet pour nous défendre avant l'arrivée du coronavirus. Donc, on était cool avant la marée même, le podcast.
On l'a fait dans les débuts, OK. Le podcast en Zoom, tout ça, ça nous connaît. Mais tout ça, c'est pas grand-chose d'intéressant. Donc, on vous souhaite la bienvenue à tous aujourd'hui. Merci de nous écouter. Merci d'être là encore une fois, de nous suivre. Un petit résumé de la dernière programmation de l'année dernière, donc de Bistro Brain. Bistro Brain a totalisé 24 événements, 118 présentations, 2148 participations et 17 000 visionnements. Mais là, vous vous demandez, hey, mais en fait, Bistro Brain, c'est quoi? Eh bien, c'est un organisme de vulgarisation scientifique à but non lucratif qui œuvre à Sherbrooke, à Montréal et à Trois-Rivières et qui participe à la promotion de la science dans la société et qui vise à promouvoir cette science par le plaisir dans des bars avec des super présentations vulgarisées, des podcasts, des formations. Et que sais-je encore, nous sommes vraiment multidisciplinaires.
Des bénévoles vraiment cool.
Ça aussi. Woo! Merci. Ouais. En résumé de l'émission d'aujourd'hui, on va avoir une chronique puis une entrevue, la classique. Et je vais dire bonjour aux personnes en studio avec moi. Vous avez déjà entendu Gaëlle qui va parler à la chronique aujourd'hui. Salut Gaëlle, ça va bien?
Salut, ça va toi?
Ça va très bien. Très heureuse de vous retrouver. Gaëlle va donc nous parler des mythes liée à la microbiologie. Elle va faire écho justement à notre événement de demain, Démonte ton mythe. On a vraiment hâte d'entendre ça. Et on va ensuite avoir Alexis. Salut Alexis, comment ça va?
Salut Julie, comment ça va toi? Oui, ça va pas.
Moi aussi, ça va très bien. Donc Alexis va passer en entrevue aujourd'hui. Simon, salut Simon, comment tu vas?
Bonjour Julie, ça va super bien, merci beaucoup. Et toi?
Ça va super, on est très heureux de t'avoir super avec nous aujourd'hui.
Merci.
Sans plus tarder, je vais passer la parole à Gaëlle.
Avant de commencer à vous débiter des mythes populaires liés à la microbiologie, j'aimerais d'abord vous donner quelques petites définitions. La microbiologie, ben en fait, c'est l'étude de tous les micro-organismes, qu'on appelle aussi communément les microbes. Il existe plusieurs sortes de microbes, comme par exemple les bactéries, les virus ou les champignons, pour ne nommer que les plus populaires. Les microbes peuvent vivre dans des environnements extrêmement variés. Il en existe à peu près d'ailleurs dans tous les endroits auxquels vous pourriez penser. Et vous, en studio, avez-vous des idées vite comme ça qui vous viennent d'environnements ou d'endroits où les microbes pourraient vivre?
Sur mon téléphone portable.
Définitivement.
Le fond de ma toilette.
Dans ma face.
Ce sont toutes d'extrêmement bonnes réponses. Donc, les microbes peuvent être effectivement donc, sur le corps humain, sur toutes les surfaces, mais aussi dans des environnements comme sur les plantes, dans l'eau ou encore même dans l'air. Ensuite, un autre terme qu'on entend souvent quand on parle de microbiologie, c'est le microbiote. Le microbiote, c'est un terme qui est souvent utilisé pour définir les micro-organismes qui vivent dans les intestins humains, mais il s'agit en fait d'un terme plus général pour désigner un groupe de micro-organismes vivant dans un même endroit donné. Donc, les microbes de nos intestins composent donc notre microbiote intestinal, mais tout comme les microbes qui vivent sur les plantes composent le microbiote végétal, par exemple. Pour cette chronique, je vais me concentrer sur trois mythes ou croyances populaires assez répandues dans le domaine de la microbiologie, bien qu'il en existe plusieurs autres, et j'espère vous apprendre quelques petites choses aujourd'hui. Tout d'abord, l'un des mythes les plus répandus en microbiologie humaine est sûrement que les bactéries, qui sont un des types de microbes, je vous le rappelle, dans notre microbiote sont 10 fois plus nombreuses que nos propres cellules. Nous serions donc en fait composés de plus de bactéries que nous serions humains. Aviez-vous déjà entendu ce genre de données?
Mm-hmm, en effet.
Ce chiffre de 10 bactéries pour une seule cellule humaine provient en réalité d'un article scientifique publié en 1972. Et dans cet article, l'auteur effectue un calcul assez simple et avec les connaissances de son époque pour estimer le nombre de bactéries sur et dans le corps humain. Par contre, une étude plus récente, celle-ci publiée en 2016, s'est penchée sur la question et a effectué une estimation beaucoup plus approfondie du microbiote humain. Cet article conclut qu'il y a à peu près autant de bactéries vivant sur et dans notre corps que de cellules qui le composent. Donc, dans les faits, le rapport bactéries-cellules humaines est donc plutôt de l'ordre du 1 pour 1 plutôt que du 10 pour 1. Pourtant, c'est encore la donnée erronée qui circule sur Internet et c'est même celle-ci qui apparaît en premier si on fait une recherche Google sur le sujet.
Moi, je dis qu'il faut les mettre à jour la page Wikipédia.
Définitivement. Passons maintenant donc au deuxième mythe. Le terme microbe, c'est un terme qui a une très grande connotation négative. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on entend microbe, on a tendance à penser à maladie. Mais est-ce que c'est vrai que tous les microbes peuvent causer des maladies? En fait, non, pas du tout. Les microbes causant des maladies, on les appelle des microbes pathogènes. Et ils sont en fait une très petite portion des microbes. En effet, il existe environ 1400 microbes pouvant causer une maladie chez l'être humain, selon une étude publiée en 2011. Bien que ce chiffre pourrait vous paraître élevé, il s'agit en fait de moins de 1% du nombre total d'espèces de microbes, ce qui, en perspective, n'est vraiment pas beaucoup. Il est aussi important de mentionner que de plus en plus d'études scientifiques montrent l'importance des microbes, et ce dans divers domaines, comme celui de la santé humaine ou encore l'environnement. Bien que certains d'entre eux sont des microbes pathogènes, nous ne pourrions sûrement pas vivre la vie que nous connaissons aujourd'hui si tous les microbes n'existaient pas. Et donc, c'est faux que tous les microbes causent des maladies, bien qu'une petite portion de ceux-ci peuvent le faire. Pour terminer, une croyance populaire veut qu'à vouloir trop se protéger des microbes, on affaiblirait notre système immunitaire. Eh bien, c'est faux, du moins chez les adultes. Parce que, à moins de vivre dans une bulle, il est complètement irréaliste de penser qu'on peut éviter les microbes à 100%. En effet, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cette chronique, les microbes se trouvent dans pratiquement tous les environnements. Sur les surfaces de votre maison, et oui, même si vous faites bien le ménage, sur votre peau, dans l'air, dans l'eau, sur les plantes qui vous entourent, etc. Donc, même si on veut se protéger des microbes le plus possible en désinfectant absolument tout, on sera quand même exposé à ceux-ci dans une certaine mesure. De plus, bien qu'il ait été montré par des recherches scientifiques que le développement du système immunitaire est étroitement lié à l'exposition à des microbes en début de vie, une fois à l'âge adulte, notre système immunitaire est déjà éduqué à plusieurs microbes et l'hygiène n'y changera rien. Chez les enfants, bien que les règles d'hygiène demeurent importantes pour éviter le développement de maladies graves, il est tout de même très important de les laisser entrer en contact avec certains microbes afin que leur système immunitaire se développe et soit en mesure de mieux différencier les bons des mauvais microbes.
Bref, laissez-les manger de la terre.
Oh, exactement. Mais une question persiste. Pourquoi tous ces mythes sur la microbiologie voient-ils le jour? Ce qui se passe, c'est que lorsque de nouvelles découvertes sont faites par les scientifiques, c'est un véritable jeu du téléphone qui commence. Souvent, les articles scientifiques dans lesquels sont publiées ces nouvelles connaissances ne sont pas très digestes, même pour un autre scientifique qui ne travaille pas exactement dans le même domaine. Ça peut donc être très difficile pour un journaliste de bien comprendre les conclusions apportées dans un article. De façon fréquente, ce sont les services de relations publiques de l'institut dans lequel a été effectuée la recherche qui publient une version vulgarisée des résultats, mais en y apportant une petite touche de battage médiatique. Des journalistes reprennent ensuite cette information, la simplifient et l'amplifient, puis celle-ci se met à circuler sur Internet et tout le monde peut y mettre sa touche. Les entreprises peuvent ensuite prendre cette information pour vendre des solutions miracles et, plus vite qu'on peut le penser, on se retrouve avec des informations à portée de main qui ne sont pas tout à fait vraies. Basées sur une vérité certes, mais avec un soupçon d'exagération. Par exemple, saviez-vous que les humains utilisent seulement 10% de leur cerveau?
Oui.
Eh bien, c'est faux.
On croyait le savoir, du coup.
Vous croyez le savoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une étude avait été publiée sur le fait qu'on ne connaissait que 10% des fonctions de notre cerveau. Mais la conclusion qui a été publicisée de cet article-là, c'est qu'on ne pouvait utiliser que ces 10% connus. Et c'est cette information qui est restée dans les croyances populaires, bien qu'elle soit fausse.
Mais alors, c'est quoi la vérité? Combien on utilise de pourcentage de notre cerveau, Gaëlle?
On utilise 100% de notre cerveau, juste pas 100% du temps.
Ok.
Décevant.
Ah ouais, c'est décevant. Moi, j'étais comment? On va avoir des super pouvoirs un jour, on va débloquer des trucs et tout. En fait, que dalle, quoi.
Que dalle.
Ah, c'est vraiment, c'est vraiment décevant.
C'est vraiment juste une mauvaise interprétation d'une conclusion scientifique, en fait. De plus, ce ne sont pas tous les scientifiques qui ont une facilité à bien communiquer leur science au grand public. Donc, même si on leur demande à eux de nous vulgariser leurs recherches, ça ne veut pas dire que l'information sera bien comprise par le public. Et malheureusement, ce ne sont pas tous les chercheurs qui ont le temps de faire de la communication scientifique dû à un horaire souvent très chargé. La solution? Former plus de gens en communication scientifique, et c'est d'ailleurs l'une des missions de Bistrobrain. Ou encore, enseigner la pensée scientifique au grand public.
Ce qui est une autre activité de Bistrobrain.
Effectivement! On est là pour vous. Donc, c'est-à-dire, ne croyez pas d'emblée tout ce que vous entendez ou tout ce que vous lisez sur Internet. Et faites plutôt des recherches plus approfondies ou encore demandez à un spécialiste avant de véhiculer une information. Donc, la prochaine fois que vous voudrez parler de microbiote humain, rappelez-vous qu'il n'y a l'équivalent que d'une seule bactérie par cellule humaine. C'est tout.
Merci beaucoup, Gaëlle, pour cette chronique très éclairante sur la microbiologie. Et sur plein d'autres affaires, dans le fond, hein, parce que c'est sur la vulgarisation au complet et sur comment traiter l'information scientifique quand vous la cherchez. Mais je reste encore très, très déçue de cette histoire de 10% du cerveau. Genre, franchement, moi, je me disais, à force de travailler, je vais réussir à faire bouger les objets par la pensée. Et ben, c'est pas le cas.
Ouais, je pense vraiment que Gaëlle se lave les mains de cette déception.
En effet, c'est le cas de le dire. On revient tout de suite après une courte pause. Donc nous voilà de retour pour cette deuxième partie d'épisode 36 de La Tête à Papineau. Après avoir écouté cette magnifique chronique sur la microbiologie de Gaëlle, je laisse la parole à Alexis qui passe Simon en entrevue.
J'étais vraiment ravi d'entendre l'histoire des microbes de Gaëlle.
Merci.
Dis comme ça la microbiologie de Gaëlle. Donc j'ai ici devant moi un étudiant en doctorat de recherche en bioinformatique à l'Université de Sherbrooke. Également complété une maîtrise de recherche en biologie moléculaire qui en fait de lui un biologiste. Également fondateur de l'entreprise d'apiculture, donc des abeilles, c'est bien qu'on sait ce que tu nous dis, Julie, qui s'appelle Apis Divisio, en 2016, établi maintenant à Mascouche. Et également activement impliqué auprès du regroupement étudiant Rush Campus à partir de 2017, même date de fondation que Bistrobrain. Donc en plus de tous ces titres prestigieux, Simon, tu fais aussi partie de la redoutable équipe de frisbee locale, les Spin to Win, et tu as présenté à l'événement Bistrobrain Science et Fiction le 10 avril 2024. Simon, merci d'être parmi nous, on espère que tu vas bien.
Ben, merci de m'accueillir, ça va être un plaisir, j'en suis convaincu.
Simon, qu'est-ce que ça fait d'envier un biologiste?
Hop là, c'est une bonne question ça. ça continue ses études jusqu'à...
Ce que mort s'en suit.
Jusqu'à ce qu'on trouve la fin de cette phrase-là. Non, en réalité, un biologiste, c'est... une personne ressource en biologie, donc quelqu'un qui va être contracté par n'importe quelle firme, n'importe quelle entreprise de pharmacologie, de pharmacie, d'environnement, qui va éventuellement donner des conseils sur les méthodes de fonctionnement, de méthodes d'inventorisation, qu'on va dire. en réalité, c'est une bonne question pour moi. Être biologiste, c'est plutôt faire de la recherche en académique, donc... qui va chercher des solutions, des gens qui vont chercher des solutions à des problèmes, des grands problèmes de la vie et qu'on va tenter de résoudre en creusant encore plus loin les connaissances qu'on a déjà dans un domaine donné. Par exemple, en biologie moléculaire, ben, on cherche des solutions à la crise des antibiotiques, on cherche un peu plus en microbiologie également, à lutter contre les maladies infectieuses, les pathogènes. Donc, on cherche des solutions activement à des grands problèmes qui n'ont pas de réponse à l'heure actuelle.
Puis toi, tu es... grand universitaire qui veut trouver la solution à quel grand problème?
C'est une autre excellente question. T'en as des bonnes ce soir. On cherche dans notre laboratoire, mon équipe et moi, on cherche éventuellement qu'est-ce que la vie? C'est aussi grand que ça. Dans un laboratoire comme le nôtre, on va décortiquer la vie en modules, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que chacun des modules fait. Puis la plupart du temps, on s'intéresse aux gènes, donc on s'intéresse aux fonctions à l'intérieur des cellules. Quelles sont les fonctions, pardon, dans les cellules qui sont importantes pour le maintien de la vie, pour la perpétration des fonctions biologiques. Donc, on va essayer de comprendre vraiment comment la vie fonctionne à son niveau le plus simple. Donc, en défaisant les cellules en petits blocs Lego, puis en essayant de comprendre qu'est-ce que chaque bloc Lego fait, où est-ce qu'il s'emboîte, c'est quelle couleur qu'il est, puis quand est-ce qu'on a besoin de lui pour construire une structure particulière.
Et comment tu t'y prends pour étudier la vie tu t'assois, tu regardes les coccinelles, qu'est-ce qui se passe?
Ah, ça prend un très bon microscope. Non, en réalité, on parle ici de biologie moléculaire. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui se passe au niveau des molécules à l'intérieur des cellules. Donc, on va s'intéresser au flux métabolique. Donc, comment les vitamines se déplacent à l'intérieur d'une cellule, comment elles sont partagées entre les cellules, comment elles sont utilisées à l'intérieur d'une cellule pour promouvoir la vie. Donc, la multiplication de la cellule, d'une bactérie, par exemple. Sinon, on va aller séquencer ces cellules-là. Mm-hmm. Donc, notre moyen le plus direct à ce jour d'aller recueillir énormément d'informations avec une très grande efficacité et un très bon débit, c'est le séquençage de l'ADN. Donc, on va prendre nos cellules, on va les mettre dans des conditions données, puis on va étudier à l'aide du séquençage comment se comporte le génome de notre cellule dans des conditions spécifiques. Donc, notre génome, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la partition qui régule le fonctionnement entier d'une cellule. Le génome va donner une partition de transcription à notre cellule qui va lui permettre de produire des protéines spécifiques qui sont des fonctions spécifiques qui servent dans des conditions spécifiques. Donc là, en modulant toutes ces étapes-là de spécifiques, on peut répondre à des questions spécifiques.
Et questions spécifiques, quand tu dis séquencer l'ADN, dans le fond, c'est un peu... J'avais entendu dire un peu le livre de recettes, dans le fond... Tout placer les mots, les lettres ensemble pour vraiment faire un peu de sens. Puis,
exactement. Tu parles
de produire des protéines, donc c'est un peu le repas qu'on fait à la fin. Là.
Exactement. Le repas, c'est un peu... c'est une analogie un peu douteuse parce qu'on ne va pas manger notre protéine puis sa vie ne se termine pas là. En fait, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la fonction de cette protéine-là. Une protéine va rester un certain temps dans la cellule active, donc va rester... Dans le cytoplasme, donc l'intérieur de la cellule.
Ça, c'est la soupe. Là.
Ça, c'est la soupe à l'intérieur de la cellule, exactement. Puis là, les protéines seraient comme tous les petits morceaux d'alphabet puis les petits pois verts qui flottent dans la soupe. Mais tous ces morceaux-là ont une fonction spécifique. Par exemple, transcrire l'ADN, traduire des ARN en des protéines, par exemple, mm-hmm. ou bien diviser la cellule, ou bien la faire grandir, ou bien la faire bouger. Donc, il y a énormément de fonctions qui sont encodées dans les protéines. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, la vie ne se résout pas à quelques morceaux des petites boulettes dans une soupe, mais ça résout plutôt à la destination qu'a cette soupe-là en son entièreté. Donc, comment que la vie, la cellule, donc la colonie de bactéries, éventuellement la population d'un microbiome, par exemple, se comporte, bien, ça va être plutôt ce comportement-là, cette fonction-là à l'intérieur d'un écosystème qui nous intéresse.
Merci pour le petit cours 101 de biologie.
C'était un plaisir. C'était un peu rapide, mais en espérant que ça ait été un peu digeste.
Ben oui, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de justement ton amour pour les abeilles et de la fondation d'Apis Divisio?
Mm-hmm. Donc, vous comprendrez que mon intérêt pour la vie avec un grand V a commencé il y a fort longtemps, bien avant que j'arrive à l'université. Donc, j'ai toujours été assez curieux de la nature, les insectes, les plantes, etc. Donc, moi, les abeilles, ça a été, un coup de foudre assez tôt dans mon parcours. Ça s'est passé à mon cégep, là, lorsque j'étudiais au Collège Antique à Montréal. On m'a appris pendant un de mes cours à la va-vite, comme ça, qu'il y avait des ruches sur un toit vert quelque part sur le campus. Donc, j'ai fait ni une ni deux et je me suis immédiatement enrôlé dans le comité apicole du Collège Antique. Puis, pour moi, ça a été comme la façon la plus facile, entre guillemets, d'étudier la vie, mais tout en ayant un certain contrôle, en étant capable de produire quelque chose, donc de voir le cycle de la vie se produire en entier, donc les œufs qui éclosent, les larves qui sortent, les abeilles qui naissent, qui vont butiner, qui vont ramener le miel. C'est un cycle assez magnifique quand on y pense, puis assez fascinant parce qu'on a très peu d'informations à ce jour sur le cycle de vie des abeilles, puis le comportement des abeilles au sens plus large. Donc, pour moi, ça m'a apparu un laboratoire vivant en plein air, absolument fascinant. Donc, ça ne date pas d'hier. Depuis ce temps-là, j'ai mes abeilles. J'en ai eu plus ou moins au fil du temps, mais à ce jour, elles sont situées à Mascouche, comme tu l'as précédemment mentionné. Mais en réalité, c'est plutôt ma mère maintenant qui s'en occupe.
On la salue.
Oui, on salue maman. étonnamment, les entreprises Apis Divisio sont fils et mère. C'est-à-dire que j'ai enseigné à ma mère à faire l'apiculture. Puis depuis ce temps-là, elle a pris le flambeau. Parce qu'en faisant un doctorat, c'était plus faisable, tout simplement. ça commence à être beaucoup. Donc, je me suis déchargé de ça au profit de ma chère mère qui s'en occupe très bien d'ailleurs à ce jour. J'ai vu en fin de semaine et ça va comme de...
A1.
C'est ça.
Comme une lettre à la poste.
J'essaie de trouver une analogie d'abeille, mais en fait...
Ben, j'en ai une pour toi, dans le fond.
Ah ouais, donc.
Tu me disais que tu rushais trop dans ton doc, fait que t'as délégué les ruches.
C'est quoi la chose?
C'est tu rushais trop, je pense. Rush-ruche, tu sais. Mais je suis pas sûre, là.
Faut demander
confirmation.
Oui, c'est très ruchant d'avoir des ruches.
Qu'est-ce que tu as appris à travers tes expériences entrepreneuriales?
Bien entendu, c'est pas facile, l'entrepreneuriat, de manière générale. Le secteur primaire de production et transformation, là, c'est absolument pas simple. Donc, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était impossible de faire ça en sideline. Ça n'a aucun sens. Donc, une entreprise, on va classer ça agricole, là, l'apiculture. Une entreprise agricole sur le side, oubliez ça. C'est impossible d'en vivre puis d'être rentable. Donc, moi, ça a été un de mes deuils. Là. C'est-à-dire, j'aimerais ça continuer de faire ça puis pas me mettre dans la rue en le faisant. Mais c'est impossible. Ben, c'est impossible. C'est possible, mais vous allez devoir y investir un peu de capital de votre vrai emploi qui rapporte vraisemblablement plus. Mais ce qui est intéressant avec l'apiculture, c'est que c'est un secteur qui est assez éclaté. On peut se lancer dans plus de transformations, plutôt la production qui est vraiment pas payante. Ou sinon, les services... d'éducation, par exemple, que la Piste Divisio fait énormément dans les garderies, dans les marchés publics, etc., dans plusieurs sphères de la vie publique et communautaire de Mascouche. On informe sur le déclin des pollinisateurs, la pollinisation en général, puis bon, c'est un peu plus ça, notre mission au cœur, ultimement, de la Piste Divisio. Donc, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut sur la scène entrepreneuriale. S'il y a des gens pour nous écouter, nous encourager, on peut aller vraiment loin, puis ça, c'est vraiment cool. La preuve, c'est qu'à ce jour, on existe encore.
Oui, mais justement, j'ai vu sur le site que c'était vraiment de vos objectifs, l'éducation populaire. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des abeilles?
Énormément, en réalité. Les abeilles ont longtemps été une espèce baromètre là, pour décrire un peu ce qui se passe avec l'environnement. On parle du déclin des pollinisateurs très fréquemment dans les médias, bien qu'on ne comprenne pas très bien le phénomène. C'est effectivement un très bon indicateur de la santé, de l'écologie, puis aussi de différentes sphères de l'économie jusqu'à un certain point, là, lorsque on voit les impacts que le déclin des pollinisateurs va avoir sur l'économie dans les 50 ou 100 prochaines années, puis on se rend compte qu'il n'existe pas assez d'argent sur la Terre pour payer les dommages aux services qu'il va avoir sans pollinisateurs. Donc, évidemment, c'est un peu alarmiste, mais en réalité, ces pronostics-là sont documentés de plus en plus. Heureusement, on s'y intéresse. Donc, bien que les abeilles ne viennent pas d'ici, d'ailleurs, il n'y a pas d'abeilles à miel au Québec nativement. Donc, on pourrait se questionner sur la légitimité de les cultiver artificiellement ici. Mais la raison pour laquelle nous, on le fait, c'est justement pour véhiculer l'information et éduquer le plus de gens possible sur ces problématiques-là qui nous concernent tous, ultimement.
Ben oui, c'est bien plus interactif d'en parler puis d'avoir la démonstration juste à côté.
Exactement. Donc, après ça, une fois que vous avez vu les ruches et les abeilles à miel, je vais vous informer que ce qui nous intéresse réellement, c'est les 350 ou 400 sortes d'abeilles indigènes qui habitent au Québec qui sont nettement plus importantes pour nos écosystèmes.
Ça vient d'où, une abeille à miel, si ça ne vient pas du Québec?
Mm-hmm. Bonne question. Le genre Apis mellifera viendrait originalement de l'Eurasie, la région de l'Eurasie ou le nord de l'Afrique. C'est pas super clair. Il y a différentes espèces aussi. Un très grand nombre d'espèces, en fait. Donc, on n'est pas super convaincu de la provenance exclusive de notre espèce qui est Apis mellifera, je l'ai déjà dit, qu'on utilise en apiculture. Mais ça serait dans les régions plus chaudes du monde. Donc, ici, au Québec, on est vraiment des guerriers de continuer de faire de l'apiculture. Il y a des gens qui en font jusqu'à Terre-Neuve. C'est assez fascinant parce que les conditions là-bas sont absolument pas approprié pour faire ça. On est loin des figuiers et de ce qu'on peut s'imaginer dans la vallée du Nil, où est-ce que les abeilles pourraient provenir, par exemple.
Peut-être une question pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour lutter contre la baisse des pollinisateurs? Puis, c'est ça. Mettons, de chaque personne qui habite à Sherbrooke, qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, c'est une très, très bonne question. Il ne faut pas énormément d'initiatives, en réalité, pour faire une différence. On l'a vu récemment, dans les deux dernières années, par exemple. La ville de Sherbrooke a mis des incitatifs à laisser, par exemple, son sa pelouse, exactement, se révéler à son état sauvage. Donc ça, c'est des pratiques très, très faciles qui permettent, c'est essentiellement de la paresse, on a juste besoin de rien faire. Puis ça,
c'est quand même cool.
C'est cool, les problèmes qui se résolvent comme ça. Donc, on a juste besoin de rien faire et éventuellement, il va se créer une espèce de connectivité entre les friches puis entre les espaces nourriciers pour les différentes espèces comme les papillons et évidemment les abeilles. Donc, c'est une action très, très facile à faire. Là, c'est un peu, on est un peu loin du printemps, mais oubliez-le pas, en mai, habituellement, c'est le mois où est-ce qu'on ne tond pas. Donc, si vous pouvez même maintenir ça le plus longtemps possible jusqu'à temps que vos voisins soient vraiment furieux, c'est l'idéal.
Ça fait aussi en sorte que les pelouses sont en meilleure santé pour le reste de l'été.
Ah, probablement, oui, en effet. Je ne suis pas non plus pelouseologue, mais j'oserais dire que ton argument ici est probablement valable.
J'ai lu ça sur Internet à un moment donné.
Cool. C'est cool, Internet.
Il faut vérifier ses sources.
Bon point. T'as-tu vérifié cette source-là?
2016-2017. Pareil au même. Parlant de date, en avril 2024, Simon t'a offert une présentation intitulée « La génétique au cœur de Dune ». Je le dis en anglais parce qu'il y a une œuvre originellement publiée en anglais. À l'événement Science et Fiction de Bistro Brain, à laquelle plus de 250 personnes ont assisté à ce jour. Là, je compte 170 personnes dans la salle et la balance en ligne. Wow. Comment tu décrirais ton expérience à nos auditeurs, auditrices, comme présentateur?
C'était définitivement super le fun. Donc ça, c'est... J'ai pas besoin de réfléchir beaucoup avant de dire ça. J'ai adoré préparer ce sujet-là. J'ai adoré le communiquer avec les gens. C'est un peu stressant de voir qu'il va y avoir plein de gens. D'ailleurs, il y avait énormément de gens. J'en suis à ce jour encore épaté. Mais ça a été une expérience vraiment... exactement. Au moins amusante, au plus enrichissante, définitivement. J'y ai performé un petit peu de mes trucs de communication. Puis bon, je sentais que je m'entendais très bien avec l'auditoire, donc ça a bien été. J'ai vraiment hâte de le refaire, Alexis.
Ouais, je pense que tu avais plusieurs blagues en réserve justement pour l'auditoire. Là. C'est surtout ce sur quoi on met l'accent, l'émotion, puis justement, pas juste parler, mais aussi parler au public.
Ouais, exact. C'était aussi mon approche de la chose. Je voulais que les gens ils se souviennent un peu de quelques éléments par-ci par-là, mais c'est en aucun cas une conférence académique. Donc, pour moi, c'est très important que ça reste ludique puis que les gens ils sortent de là avec le sourire avant tout.
C'est vraiment notre plus grande paye en ce moment à Bistro Brain, cool, de recevoir des sourires comme c'est des gens qui sont très reconnaissants de cette diffusion du savoir à travers le plaisir.
J'en suis convaincu, c'est vraiment gratifiant.
D'ailleurs, par plaisir, je me suis gardé une blague sur la vulgarisation sur toi. Je t'avais dit, pour nos auditeurs, auditrices, Simon retient un rire incessant depuis tantôt.
Je peux pas croire que tu t'es préparé une blague
pour ça. Qu'ont en commun les abeilles et mes blagues sur la vulgarisation scientifique? La plupart du temps, l'un et l'autre volent pas haut. Et en ce moment, Simon a besoin de sortir un mouchoir.
Étonnamment, les abeilles volent quand même haut. On parle de plusieurs dizaines de mètres. Donc,
je pense que tu viens de faire un compliment presque à Alexis.
Écoute, 10 mètres, c'est presque 5 fois ma taille, ça. Dernière question pour toi, Simon. Pour toi, au Québec, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique?
Définitivement, pour faire écho à ce que Gaël disait, il en faut plus. Il faut qu'il y en ait partout. Il faut qu'il y en ait moindrement que vous avez envie d'accéder à de l'information. Il faut qu'elle soit digeste, il faut qu'elle soit disponible, il faut qu'elle soit vérifiée. Donc, pour moi, c'est tout à fait critique dans une société qui se respecte que l'information soit distribuée de cette façon-là. Donc, à mon avis, les organisations, je dirais, au sens plus large, comme Bistro Brain, sont... non seulement essentiel, mais devrait favoriser davantage. On devrait investir nettement plus dans ce type de croisade-là. Ça ne devrait pas être une croisade, en fait, d'essayer de démonter tous ces mythes-là qui sont dans la jungle d'informations qui sont les médias de nos jours. Mais investir aussi au sens plus, pas nécessairement monétairement, là, bien que je suis convaincu que vous n'en feriez fi. Mais surtout en termes d'intérêt, je veux dire, les gens devraient être encouragés à s'intéresser à ça puis à passer un certain temps à regarder, à consommer de l'information valide et pertinente et la véhiculer. Genre, ici, on a la chance à l'université, sur les campus, la plupart des gens sont intéressés par la majorité des choses. Quand on entend quelque chose de nouveau, le premier réflexe, c'est d'en poser des questions. J'encourage la plupart des gens que je connais à essayer de faire la même chose, puis d'aller au bout de leur raisonnement et de leur questionnement, peu importe le sujet sur lequel il y ait question. Donc, que ce soit pour le microbiome ou bien la microbiologie ou la vie, les abeilles, etc., cherchez le plus longtemps que vous pouvez sur l'information et vous allez juste vous rendre compte que c'est extrêmement intéressant puis qu'on ne peut pas s'arrêter une fois qu'on a goûté à cette curiosité-là.
Quel éloge, quel éloge. Merci beaucoup, Simon.
Merci à toi, Alexis.
Pour reprendre ton conseil de pelouseologue, je pense que de la même façon qu'on peut aider la nature en étant lâche, en laissant pousser son gazon, c'est un peu aussi dans le même esprit que ta vulgarisation se fait. Là, on est dans la loi du moindre effort. Et je crois que, humblement, Bistro Brain répond bien à ça en étant accessible au centre-ville, en étant gratuit. Mm-hmm. Donc, on rejoint bien la philosophie de la pelouseologie.
Ouais, vous êtes définitivement plus dévoué qu'un brin de gazon laissé à l'état sauvage. Donc, je suis vraiment, je vous salue pour ça d'ailleurs.
Ben, un grand merci pour ta présence aujourd'hui à l'épisode et on se revoit très bientôt. On invite aussi nos auditeurs auditrices à aller voir ta présentation en ligne. On va d'ailleurs mettre le lien YouTube en description de l'épisode.
Merci.
Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Simon. C'était super intéressant. On voit une variété de parcours, encore une fois, comme on voit chez beaucoup de nos invités, autant universitaires que suivre ta passion pour les abeilles, que ton intérêt pour la vulgarisation au final. Donc, un grand merci. Ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Des remerciements à tout notre auditoire. Des remerciements également à tout le monde en studio. Merci, Gaël. Merci, Alexis, pour votre présence aujourd'hui.
Merci à toi.
Ça m'a fait le plus grand plaisir. On vous invite à nos prochains événements, pardon, d'ici l'enregistrement du prochain épisode. Alors, notre prochain événement, c'est demain, c'est-à-dire le 4 septembre. On aura notre fameux Démonton Meet à Sherbrooke au Bocquet-Bière. On parlera d'intelligence artificielle et de collectivité, mais aussi d'aide sociale, de pluriparentalité et de la perception de certains handicaps, des discussions qui s'annoncent passionnantes, comme toujours. On a également un deuxième événement le 2 octobre, Lutte sociale, qui aura lieu à Sherbrooke, au Bocquet-Bière, comme à l'habitude. On espère vous y voir nombreux. Et finalement, si vous avez apprécié ce premier épisode de la 5e saison de La Tête à Papineau, eh bien on vous invite à parler de nous à un ami, à laisser des commentaires, à faire un peu d'activité sur ce magnifique podcast, et à continuer de nous suivre, comme vous le faites déjà si bien. Merci à tous.
Merci.
Merci. C'est vous.